France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Cette émission est préparée par Léa Capuano, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale, co-animé avec vous, Marc Sémo, bonjour.
Bonjour.
Notre partenaire du Monde. Au sommaire de l'émission de ce jour, les discussions sur le nucléaire iranien, la rencontre demain entre représentants de Washington et de Téhéran pour renouer un dialogue qui a pris fin en 2018 quand Donald Trump s'est retiré unilatéralement de l'accord. Quelle soudaine convergence d'intérêts permet de réunir autour d'une table le gouvernement américain et la République islamique? Pourquoi les autres États partis à l'accord de 2015 ne sont-ils pas conviés? Nous parlons de ça, entre autres choses, avec Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, et Clément Terme, chargé d'enseignement à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Mais d'abord, le retour de terrain. Bonjour Maëlys Kider.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante. Vous avez passé 3 mois à Cuba, du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de mars. 3 mois que vous avez racontés dans un grand reportage sur France Culture. Vous signez aussi dans Marianne une enquête en 3 volets sur le financement par les États-Unis d'opposants cubains, et ce bien après la guerre froide. Il se trouve que c'est en lien direct avec notre série de la semaine en Culture Monde. On parlait hier de l'USAID que Donald Trump supprime à 83%, et c'est justement Maëlys Kider, c'est justement Marco Rubio, le très anticastriste chef de la diplomatie américaine, qui a été chargé d'éplucher les programmes, d'étudier et de décider ce qu'il supprimait et ce qu'il maintenait, à condition qu'il serve les intérêts des États-Unis. Qu'a-t-il décidé pour Cuba, précisément ?
Pour Cuba, les aides du USAID ont été gelées à l'annonce de Donald Trump et de Marco Rubio en janvier et février 2025.
Comme tous les programmes.
Comme tous les programmes. Et puis, retournement de situation à Cuba, puisque fin mars, là, l'écrasante majorité des programmes de financement des oppositions cubaines ont repris. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'organisations cubaines, notamment orchestrées et gérées depuis Miami, qui ont retrouvé leurs fonds, qui ont retrouvé plusieurs dizaines de millions de dollars de financement.
Parce que quand on parle de l'USAID à Cuba, on parle uniquement de ça, uniquement de financement de l'opposition cubaine, qu'elle soit à Cuba ou qu'elle soit basée aux États-Unis, à Miami, où il y a aussi quelques programmes qui concerneraient la santé, l'humanitaire, et qui seraient sans doute antinomiques avec l'embargo, mais qui pourraient peut-être exister via je ne sais quel canal. Là, non, on ne parle vraiment que politique, en fait.
Alors, les programmes cubains ne sont pas présentés comme des programmes de financement de l'opposition, évidemment. Mais c'est vrai que quand on regarde dans le détail, il n'y a pas de financement de recherche médicale, pas de financement de lutte contre le réchauffement climatique. On parle vraiment d'organisations qui sont basées en grande majorité à Miami, qui sont ouvertement opposées au gouvernement cubain. Et les États-Unis financent ces programmes de manière assez assumée, dans un but précis, celui de renverser le gouvernement cubain.
Quand est-ce que ça a commencé tout ça? Alors ces programmes de promotion de la démocratie à Cuba, qui, on imagine bien, sous Fidel Castro existaient, mais sous une autre forme, quand est-ce qu'ils ont pris cette forme-là? C'est-à-dire passer par des institutions officielles type USAID et d'autres, qui aujourd'hui disent agir au nom du développement international?
Alors, il faut savoir que dans les années 60, donc à partir de l'avènement de la Révolution et ses premières années, les États-Unis passaient plutôt par les renseignements, donc par la CIA, et c'était plutôt des actions violentes de type invasion de la baie des cochons, ou alors des tentatives de meurtre de Fidel Castro, les cigares explosifs, le poison dans la combinaison de plongée.
Marc Duguin le rappelait d'ailleurs dans son roman « Ils vont tuer Robert Kennedy », il avait vaporisé du LSD dans un studio de télévision où Fidel Castro s'appelait s'apprêtait à délivrer un discours fleuve, lui confectionner un cigare, une veste, un stylo empoisonné, lui offrir un coquillage explosif ou encore mettre du thallium dans ses chaussures pour faire chuter sa barbe.
Oui, oui.
On était inventifs déjà à l'époque. Aujourd'hui encore, les États-Unis disent qu'ils peuvent être créatifs, mais à l'époque...
Oui, ils ont été très, très créatifs puisqu'il y a eu 638 tentatives de meurtre de Fidel Castro qui ont toutes échoué parce que les services de contre-intelligence cubains sont très performant, il faut le rappeler. Et puis, il y a eu la baie des cochons, évidemment. Donc, cette tentative d'invasion sur les côtes cubaines qui, elle aussi, a échoué. Et à partir des années 80, on voit une évolution. Et en 1983, c'est la création de NED, donc la National Endowment for Democracy, qui est une institution qui, elle aussi, avec USAID, donne des fonds à des organisations cubaines, entre autres. Et cette NED, elle a été créée par des anciens de la CIA à un moment
hier.
Où voilà, il y avait eu des révélations un peu embarrassantes pour les renseignements états-uniens. Et donc, ils décident d'en passer par ces voies de financement. Et en 1996, c'est acté que les États-Unis doivent en passer par des financements pour renverser le régime cubain. Et donc, cette manière de faire, ces procédés, ils sont vraiment légalisés, inscrits dans la loi Helms-Burton, qui est donc cette loi de 1996, qui a acté aussi l'embargo contre Cuba.
Cette aide-là continue. En 2021, l'USAID a octroyé plus de 6 millions de dollars à des associations qui mènent des programmes ciblés à Cuba, comme l'Institut Race, Égalité et Droits de l'Homme, dont vous parlez dans votre article, la Fondation pour les droits de l'homme à Cuba, la PAN, American Development Foundation. À chaque fois, qui sont les destinataires? C'est-à-dire, même si tout ça a l'air d'être assez opaque, on ne sait pas exactement quel fonds est à destination de qui, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes, mais qui sont ceux qui sont censés, in fine, les recevoir?
Il y a énormément d'organisations qui reçoivent ces fonds et chacune en fait un usage assez différent. Pour certaines, ce sont des programmes qui sont dits de recherche, de constitution plutôt de société civile. Donc l'argent va en partie aller à Cuba pour aider des civils qui auraient besoin soit de recherche de téléphone, soit d'avoir des fonds de fonctionnement. C'est très difficile de tracer cet argent, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il va du USAID à une des organisations, mais c'est presque impossible de dire où il va à Cuba après, puisque les Cubains n'ont pas intérêt à ce que ça se sache qu'ils ont reçu de l'argent des États-Unis. Et puis parfois, ce sont des fonds qui sont plus traçables, par exemple pour des médias qui reçoivent de l'argent du USAID et qui financent
les salaires. La Radio Marti, dont on parlait lundi, par exemple.
Oui, Radio Marti, et aussi des médias plus récents, comme Cubanet, qui sont financés en très grande majorité par des fonds d'USAID. Je pense aussi à des fonds de NED qui arrivent à des organisations qui essaient de constituer des syndicats indépendants à Cuba. Enfin voilà, on a différents types de financement. Parfois on sait où ils vont, parfois c'est presque impossible à dire.
Les fonds transitent notamment par cette International Republican Institute qui en 2006 déjà disait dans des documents internes qu'il fallait identifier et recruter du 109, sélectionner des leaders. Qui envoie-t-il sur place pour recruter, pour repérer?
Alors, justement, c'est très difficile de dire qui a été recruté, repéré, parce que les Cubains peuvent tomber sous le coup de la loi et donc être emprisonnés. Hein, si jamais il arrive aux oreilles du pouvoir que ce sont des financements des États-Unis, qui est quand même un pays ennemi depuis 66 ans.
Ils les considèrent comme des mercenaires.
Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Les personnes qui auraient reçu des fonds sont considérées comme des mercenaires des États-Unis, puisque c'est un état de guerre. Hein. C'est un état de guerre en temps de paix. C'est très étrange, mais c'est vrai que ça fait 65 ans que Cuba et les États-Unis sont en guerre. C'est presque un état de siège économique que les États-Unis ont mis en place. Et donc, Cuba réagit à chaque centime qu'aurait pu recevoir un Cubain sur place.
Vous racontez néanmoins dans votre article qu'on sait qu'a priori des latino-américains notamment sont envoyés à Cuba. Certains se font passer pour des touristes. Certains ont infiltré des groupes de hip-hop, racontez-vous, ou ont essayé de créer un Twitter cubain. On sait être créatif encore aujourd'hui. Rappelez récemment le nouveau chef de la politique pour l'Amérique latine, Mauricio Claver Carón, nommé en février par Donald Trump, qui a dit aussi que la transition n'est pas simplement inévitable mais aussi probablement imminente. La question n'est pas de savoir quand, mais qui et comment. Au moins l'objectif est clair et transparent, alors que l'aide financière, elle, ne l'est pas et passe par des canaux opaques. Peut-être un tout petit mot pour savoir si l'aide américaine a permis quand même de financer ici et là un peu d'agriculture, les agriculteurs, parce qu'on parle d'organisation paysanne. Est-ce que c'était toujours dans l'idée de construire une opposition au régime castriste, ou est-ce que c'est aussi en se disant que Cuba doit au moins pouvoir recueillir, enfin récolter et avoir une petite agriculture?
Alors, ces programmes, ils ne concernent pas l'agriculture. Je dirais que ces programmes de financement du USAID, de NED et d'autres, ils viennent en quelque sorte compléter l'embargo. C'est-à-dire que l'embargo s'occupe de mettre à mal l'économie cubaine. Je rappelle qu'en 1960, un document déclassifié du département d'État des États-Unis dit qu'il faut semer la faim, le désespoir à Cuba, pour que le peuple renverse lui-même son propre gouvernement. Et donc l'objectif de l'embargo, il est clair, assécher l'économie cubaine. Et en parallèle, il faut gagner en influence, il faut gagner des alliés à Cuba pour non seulement renverser le gouvernement, mais aussi, si le gouvernement est renversé de façon imminente, comme le dit Mauricio Claver Carón, avoir une mainmise et un pied à Cuba.
Depuis quand vous travaillez ces terres?
Hace 30 años.
Depuis 30 ans.
Et quelle taille fait l'exploitation?
7 hectares.
7 hectares.
Que produisez-vous ici?
Plátano, frijoles,
des bananes, des haricots noirs, de l'avocat, du café, des agrumes et quelques racines comme la patate douce. On produit ce qu'on peut parce qu'on fait tout à la main. On n'a pas de tracteur pour préparer la terre. On n'a pas de combustible. On doit transporter la marchandise par traction animale à plus de 15 km. Parfois, la coopérative trouve un peu d'essence, comme aujourd'hui, et on peut emmener les produits jusqu'au village.
Extrait de votre grand reportage pour France Culture, Maïlys Kider, réalisé par Annie Brault. Vous êtes allé dans l'Escambray, c'est au centre du pays, une région montagneuse où Che Guevara avait établi son campement. De quoi ont besoin les paysans qui travaillent?
De presque tout. Cuba est un pays où on entend souvent dire que si on jette une graine, tout pousse immédiatement. Et c'est vrai, c'est un climat humide, il y a beaucoup de soleil, il y a de l'eau jusque-là. Mais les paysans se retrouvent dans une situation où ils font de l'agriculture presque comme dans les années 50. C'est-à-dire qu'on arrive dans l'Escambray ou dans d'autres montagnes cubaines et puis on voit les paysans avec leurs bœufs qui tractent. On les voit planter à la main. Enfin, c'est une agriculture de parcelles relativement petites. Ça atteint parfois plusieurs hectares, mais c'est vrai que c'est une agriculture qui est unique au monde depuis la réforme agraire mise en place par Fidel Castro, qui est une première réforme de la Révolution, d'ailleurs, qui a rendu la terre aux paysans. Mais aujourd'hui, on voit bien que les paysans n'ont pas de tracteurs, n'ont pas de pesticides, sans dire qu'il faudrait mettre des pesticides. C'est vrai que les problèmes liés aux insectes, aux mauvaises herbes, etc., sont difficilement solutionnable, on va dire, pour les paysans.
Ils vous disent qu'ils doivent jeter beaucoup de leur production attaquée par les insectes.
Oui, ils doivent jeter beaucoup de production. Et puis aussi, quand les fruits tombent des arbres, par exemple, sur plusieurs hectares, c'est dur de ramasser tout ça. Donc si on n'a pas de machines, parce que ces machines ne sont pas accessibles ou parce que quand on en a, il n'y a pas de pétrole pour les faire fonctionner, pas d'essence.
Et on ne peut pas non plus se fournir en pièces détachées jamais elles tombent en panne.
Exactement. L'embargo empêche une bonne partie du commerce à Cuba et ça s'ajoute au fait que l'État cubain n'investit pas beaucoup dans l'agriculture. C'est une très faible partie du PIB qui est investie là-dedans, puisque l'État cubain actuellement mise sur des domaines qui ramènent des devises pour ensuite pouvoir acheter sur les marchés internationaux, puisque avec des pesos cubains, on ne peut rien acheter nulle part ailleurs qu'à Cuba.
Et on arrive dans cette situation ubuesque où les Cubains ne peuvent plus se nourrir avec ce qu'ils produisent. L'embargo, comme vous le disiez, empêche d'acheter du pétrole pour faire fonctionner les machines, des pièces détachées. C'est pareil pour les centrales sucrières qui sont parties en capilotade et que Cuba a même commencé à détruire dans les années 2000. Donc Cuba, aujourd'hui, importe du sucre. Tout l'est importé, vendu à des prix prohibitifs. Une bouteille d'huile, par exemple, coûte 900 pesos quand beaucoup de salaires s'élèvent à 3000 pesos. Mais les Cubains trouvent des solutions. Ils inventent, comme on vous dit beaucoup sur place.
Tous les jours, je dois faire la queue. Tous les jours, car c'est avec ça que je mange. J'achète tous les jours et je revends tous les jours. Je fais mes courses au jour le jour. Ici, ils vendent 5 paquets de lessive par personne. Donc, je fais une queue devant chaque magasin pour avoir les 10 ou 20 détergents dont j'ai besoin. Après, je vais les revendre, et ainsi de suite. Je garde un ou deux paquets pour ma consommation.
À combien tu vas les vendre ?
À 350 ou 400 pesos.
Au final, tu ne fais pas tant de bénéfices.
Non, de très petits. C'est pour manger, pas pour m'enrichir.
Et tu penses quoi de la dispute qui a éclaté tout à l'heure ?
De l'embrouille. La nécessité pousse les gens à s'engueuler. Tout le monde veut obtenir les produits rapidement pour pouvoir faire une autre queue parce que tout le monde achète pour revendre. Je ne suis pas le seul. Regarde ce sac énorme. Il y a un autre encore plus grand. Regarde ici et ici, partout.
Attendre dès l'aube dans les files d'attente, c'est presque un métier à temps plein aujourd'hui à Cuba. Maëlys Kider, comment expliquer qu'il y a quelques années encore, 3-4 ans, peut-être un peu plus, 5-6 ans, malgré cet embargo qui est imposé depuis 63 ans sur le pays, et aucun autre pays au monde n'a subi ça, mais il y a quelques années encore, il n'y avait pas ces files d'attente à Cuba. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se dure, que tout se complique à ce point aussi rapidement ?
En 2021, le Covid et l'arrivée de Trump se sont combinés, 2020-2021, et l'économie cubaine en a largement pâti. C'est-à-dire que quand arrive le Covid, Cuba ferme ses frontières, donc le tourisme s'effondre. Parallèlement, Donald Trump avait durci les sanctions et l'embargo, 243 nouvelles mesures d'embargo, donc énormément de banques, d'entreprises qui ont écopé d'amendes de plusieurs millions, voire milliards de dollars. Et donc, l'économie cubaine en a pris un coup et l'État cubain a décidé à ce moment-là, en 2021, de mener une réforme monétaire d'unification des deux monnaies qui existaient jusque-là. Et tout ça combiné aux pénuries, puisque Cuba ne produit pas assez de nourriture, a fait que l'inflation a grimpé et que les prix ont atteint des sommets. Et aussi, l'État cubain a avant subventionné énormément de produits. Sauf que dans la situation actuelle, il a beaucoup moins de liquidités, beaucoup moins de devises, beaucoup moins d'argent. Et donc, l'État peut moins subventionner. Ce qui fait que la libreta de abastecimiento, c'est-à-dire le carnet d'approvisionnement, a de moins en moins de produits. Et donc, les produits subventionnés qui coûtaient très peu cher, le pain, le sucre, l'huile, le café, etc., aujourd'hui, s'achètent plutôt dans des entreprises privées ou d'État dans lesquelles il y a des queues, ou privées où les prix sont extrêmement élevés.
Parce que les sanctions imposées par les États-Unis comportent quelques clauses pour contribuer, on imagine, à changer progressivement la nature même de l'économie de l'île, puisque Washington a bien précisé que si le gouvernement cubain autorisait la propriété privée, eh bien les entreprises concernées ne seraient pas soumises à l'embargo. Combien Cuba compte-t-elle aujourd'hui de ces MIPIMES, ces petites entreprises privées ?
Je crois qu'il y en a à peu près 11 000, alors je n'ai pas actualisé les chiffres depuis un petit moment, mais bon, on doit être entre 11 000 et 15 000. Et donc ces entreprises privées, elles étaient nécessaires pour pouvoir importer. Et en même temps, ce sont des entreprises qui importent, qui ont des coûts de production et de salaire, etc., qui sont assez élevés. Et donc, ça se répercute sur les coûts et ça se répercute sur les prix que payent les Cubains et qui n'ont simplement pas les moyens de payer ces prix-là.
Ce sont des micro et petites entreprises qui peuvent avoir jusqu'à 100 employés. Donc, il y a des commerces d'alimentation notamment, mais pas seulement. Mais simplement, il faut bien, pour monter ces entreprises, avoir un investissement de départ, avoir les moyens de les lancer. Qui les a ?
Ce sont en majorité des gens qui ont soit de la famille à l'étranger, qui économisent de l'argent pour investir, soit des gens qui vivent en partie aux États-Unis ou en Europe et qui rentrent à Cuba, qui font des allers-retours, soit des gens qui étaient partis et puis qui sont revenus monter leur entreprise et qui la laissent pour certains en gestion à Cuba et puis eux voyagent. Mais c'est effectivement, le Cubain de classe populaire ne peut pas monter une petite entreprise privée.
Certains de ces nouveaux employeurs ou créateurs d'entreprises ont même réussi à s'offrir de belles voitures étrangères puisque l'État a autorisé les Cubains à importer des voitures. C'est tout à fait nouveau dans un pays qui a toujours prenez la justice sociale, de voir les inégalités désormais patentes dans les rues. Encore faut-il pouvoir remplir le réservoir.
Explique-moi comment on fait pour remplir sa voiture d'essence.
Fonctionne à travers un groupe de Telegram.
Ça fonctionne avec un groupe Telegram que les stations essence ont mis en place. Après environ un mois, tu obtiens une place. Par exemple, je me suis inscrit le 20 janvier, on est le 3 mars, et on m'a appelé parce que c'est mon tour.
Mais peux-tu
me montrer le groupe ?
Par exemple, on va chercher la convocation d'aujourd'hui. Elle dit, ils sont très agréables, ils disent, mes amours, bonjour, voici les convocations en ce qui concerne le combustible régulier. Dans mon cas, je suis dans le groupe qui devait venir entre 13h30 et 16h.
Et entre 13h30 et 16h, ils ont appelé 100...
Du 10501 au 10679, à peu près 170 voitures. Quand cette station essence n'avait pas cette organisation, la queue partait de là, il était longue de 5 ou 6 pâtés de maison. Il y a beaucoup de stations à la Havane où la queue est beaucoup plus longue parce qu'elle fonctionne par ordre d'arrivée. En décembre, j'en ai fait une comme ça. J'ai attendu 23 heures pour faire le plein.
Et tu as fait comment pour attendre 23 heures ?
Tu quittes un moment la queue, tu préviens les voitures derrière que tu vas manger ou prendre une douche et que tu vas revenir. Et 23 heures sont passées.
Le Cuba qui manque d'essence, les Cubains qui manquent d'essence, le Venezuela n'est plus le fournisseur qu'il était sous Chavez. Le pays est aussi sous sanction. Quant au tourisme, Maïlis Kider, pour conclure, il ne rapporte plus les devises nécessaires. Est-ce que vous avez vu beaucoup de touristes quand vous y étiez ?
Non, il n'en avait pas beaucoup. Non seulement parce que ce n'était pas vraiment la saison,
la bonne période,
mais aussi parce que le tourisme a chuté d'à peu près de moitié. Depuis
la pandémie de Covid et l'aggravation du blocus et la crise socio-économique. En revanche, ce qu'on entend bien dans tout votre grand reportage, c'est que la musique continue, la danse, les spectacles, en tout cas que l'accès à la culture est garanti pour tous encore aujourd'hui.
La culture est très peu chère et il y a énormément de festivals, de musique, d'événements liés au cinéma et il ne faut pas du tout imaginer un pays où il ne se passe rien et avec une ambiance morose, les gens sont très fatigués, mais il y a énormément de vie et les gens résistent malgré tout.
Sonido fuerte, ardiente y pegajoso, sinceroso te destrozo, mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión. lesión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Seguir. Yo represento Romulata Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo te dejo mi tema como mi emblema se fini. No, no te vayas.
Le groupe Orichas et sa chanson Allo Cubano, elle date déjà de 1999. Ce groupe Orichas qui dit avoir choisi ce nom en référence aux divinités de la Santeria, une religion afro-cubaine. Et c'est un groupe qui a émigré un temps à Paris, en France, dans le 15e arrondissement. On ne sait pas trop où ils sont aujourd'hui. En tout cas, on avait envie de passer en longueur ce morceau dont on entend quelques notes dans votre grand reportage diffusé sur France Culture. Trois mois dans Cuba en crise, réalisé par Annie Bro. Merci beaucoup. Maïlys Kider, vous...
Merci beaucoup.
Vous signez aussi dans Marianne une enquête en trois articles. La guerre froide n'est pas finie. Le premier volet a apparu récemment. Cuba versus États-Unis, des opérations de la CIA à la promotion de la démocratie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On quitte Cuba pour notre table ronde d'actualité, la reprise des discussions sur le nucléaire iranien.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Je pense que l'Iran pourrait être un grand pays. Tant qu'il ne possède pas l'arme nucléaire, s'il en possède une, il n'aura jamais la chance de devenir un grand pays.
Nous ne devons être ni trop optimistes, ni trop pessimistes. Il faut désormais suivre ces négociations en définissant clairement les lignes rouges.
Quelques paroles presque aimables et réconciliantes, en tout cas prudentes, échangées entre Donald Trump et l'ayatollah Khamenei, à distance bien sûr, les États-Unis et l'Iran n'ayant aucun contact direct depuis 45 ans. Balzac disait que la diplomatie est une science fort commode qui permet de parler sans rien dire vraiment, de se retrancher dans des hochements de tête mystérieux. Voilà qui change de la façon tonitruante dont Donald Trump avait claqué la porte en 2018 de l'accord sur le nucléaire négocié par son prédécesseur. Donald Trump qui est peut-être en train de la rouvrir, cette porte un peu penaud. Si rien n'est dit officiellement encore, que peut-on attendre des réunions techniques et diplomatiques qui se tiendront demain à Mascate entre représentants états-uniens et iraniens? Y a-t-il une convergence d'intérêts qui permette au moins de subodorer la conclusion d'un nouvel accord? Bonjour Hassni Abidi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Vous avez dirigé l'ouvrage « Le Moyen-Orient selon Donald Trump » qui vient de paraître en mars aux éditions Éric Bonnier, ouvrage auquel vous avez contribué. Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes chargé d'enseignement à l'université Paul Valéry de Montpellier et vous allez faire paraître les idées reçues sur l'Iran au Cavalier Bleu cette année en 2025. Merci à tous les deux d'être avec nous. On commence avec votre éditorial, Marc Semo.
Oui, merci Julie. Alors, dans son discours d'investiture, Donald Trump affirmait que la grandeur d'un président était surtout dans les guerres qu'il a su éviter. Alors l'autoproclamé roi du deal est en échec en Ukraine comme à Gaza pour cesser le feu, mais le nucléaire iranien pourrait être sa revanche. Les négociations avec la monarchie ont commencé à Oman, puis à Rome, elles vont à la Mascate, elles continuent, elles pourraient même aboutir. Le cas est en effet inédit. Donald Trump tente maintenant de réparer ce qui lui a lui-même fracassé lors de son premier mandat en se retirant unilatéralement du JCPOA, l'accord de Vienne de 2015, laborieusement négocié, qu'il pourfendait comme, je cite, un désastre, au diapason d'ailleurs, de ce que disait aussi Benjamin Netanyahou. Le cadre des discussions est pourtant le même. Il reconnaît le droit de l'Iran à un programme nucléaire civil, mais impose un contrôle international permanent en échange d'une levée des sanctions. Il n'est plus question d'exiger, comme le voulaient au début les États-Unis, un total démantèlement, comme par exemple ce fut le cas pour la Libye de Kadhafi. D'où d'ailleurs les inquiétudes israéliennes qui craignent un accord bradé. La République islamique est aux abois, ses proxys dans la région, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, ont été laminés par les offensives israéliennes, le régime syrien a été balayé, la contestation monte en interne sur fond de débâcle économique à cause des sanctions. Le guide Ali Khamenei s'est donc résigné à appuyer le président modéré Pezeshkian dans la recherche d'un compromis avec le grand Satan. Mais il faut faire vite, l'Iran a accéléré sa marche vers la bombe. bombes et dispose désormais d'un stock conséquent d'uranium enrichi à plus de 60%, proche du taux nécessaire à un usage militaire. Les capacités balistiques se développent vite et Téhéran s'est aussi rapproché de Moscou. L'alternative à l'accord, ce sont des frappes israéliennes avec l'aide des Américains, au risque d'embraser toute la région et bien au-delà.
Merci beaucoup, Marc Semo. Alors, avant de négocier demain, les États-Unis ont commencé par mettre en œuvre de nouvelles sanctions contre l'Iran cette semaine, c'était mardi. Des sanctions plus précisément contre le secteur énergétique de l'Iran. Dans le détail, Clément Terme, quelles mesures ont été prises, qui ne l'avaient pas encore été, contre une économie déjà criblée de sanctions ?
Alors, ce qui est nouveau avec l'administration Trump, c'est de cibler les petites raffineries chinoises et ceux qui importent le pétrole, en fait, d'Iran aujourd'hui, en Chine, les réseaux bancaires parallèles, les réseaux de troc, et de faire pression sur la Chine, qui importe aujourd'hui plus de 95% du pétrole iranien, pour qu'elle cesse ses importations. En fait, cette politique de sanctions ne rencontrera un succès que si la Chine accepte de se soumettre aux pressions américaines. Donc, l'administration Trump essaye d'obtenir par la pression, par la sanction, ce qu'elle ne souhaite pas obtenir finalement par l'option militaire, même si elle utilise dans le même temps le risque d'une intervention militaire israélienne comme un élément pour augmenter sa marge de manœuvre dans la négociation. Donc je pense que si la menace d'intervention militaire a été décisive dans la décision du guide suprême d'accepter le principe même de négociation publique avec les États-Unis, ce qu'il refuse depuis 2018, la date de la sortie de Trump du précédent accord, on est quand même dans une situation où l'Iran est en position de faiblesse puisqu'il accepte de négocier sous la pression. Ce n'était pas le cas depuis 7 ans.
Qui sera présent à Mascate, dans le sultanat d'Oman demain, Hasni Abidi? Qu'est-ce que ce groupe d'experts, experts en quoi? Experts du droit ou de l'atome? Parce qu'il y a des réunions parallèles qui se tiennent les unes avec les autres.
Oui, on s'attendait à ce que les discussions rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire une fois qu'on a élaboré le cadre de ces négociations, ce n'est pas un détail d'évoquer discussions directes ou ne pas directes. Les Iraniens insistent sur les discussions indirectes, les Américains surtout en parlent de direct, parce que le président américain veut un accord vite. Et vous savez, il a fixé un délai de 2 mois qui est très court. Les Iraniens veulent un direct, c'est parce que finalement, pour ne pas paraître comme vulnérable et pour ne pas dire qu'on a cédé finalement, alors que, comme vient de le rappeler Clément Terme, ont toujours refusé en tout cas ces négociations. Ils ne veulent pas, comme ils le disent, des négociations humiliantes. Donc indirect pour eux, ça signifie qu'ils ont leur propre approche et qu'ils vont négocier aussi à leurs conditions. Qui sera présent du côté américain, on le sait, c'est toujours le même qui a travaillé aussi sur le dossier nucléaire. C'est Michael Anton qui est le responsable de la planification politique et qui connaît bien la région. Du côté iranien, ce sont plutôt, évidemment, le vice-ministre des Affaires étrangères, je crois que c'est Kazim Gaïba Baldi qui sera présent. Et la question, à mon avis, la question technique, c'est, elle est relative à ce que l'Iran appelle comme zéro tolérance, c'est-à-dire pas d'enrichissement sur le sol iranien. Et les Américains, ils ont plutôt une autre approche qui dit, oui, évidemment, un programme civil, mais il peut être importé de l'étranger.
L'accord de 2015, on le rappelle, il limitait à 3,7% le niveau d'enrichissement de l'uranium iranien. Ce niveau est passé à 60% d'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, soit quasiment la teneur nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. De la même façon, le stock d'uranium enrichi atteint aujourd'hui 8200 kilos quand il ne devait pas en dépasser 300 selon l'accord. Quel est l'enjeu sur l'accord même et les termes de l'accord? Est-ce que il s'agit de négocier un accord qui ressemble à celui de 2015 ou un tout autre accord, peut-être plus contraignant, Clément Terme?
Alors, il y a ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Donc, l'administration Trump fixe en même temps des objectifs maximalistes à travers la parole de son secrétaire d'État, Marco Rubio, et des paroles plus ouvertes, une position plus compatible avec la position iranienne à travers l'envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff. Donc l'administration Trump a plusieurs positions au sein même de l'administration Trump. Donc c'est très difficile d'y voir clair côté américain. Simplement, la question qu'il faut se poser aujourd'hui à la veille des négociations, c'est est-ce qu'il s'agit d'une position de départ qui peut évoluer vers un compromis ou est-ce que c'est l'effet final recherché finalement Et la marge de manœuvre, c'est soit une capitulation côté iranien, soit l'absence d'accord. Je pense que une solution pour éviter que l'absence d'accord et que la rupture des négociations conduise à une escalade militaire pourrait être un accord intérimaire ou une feuille de route. C'est-à-dire de remettre à plus tard, comme vous avez cité Balzac en introduction, je pense que les diplomates savent aussi très bien remettre à plus tard le règlement des problèmes tout en maintenant le canal ouvert. Donc on n'est pas forcément des deux côtés, même si Donald Trump a fixé une date limite de 2 mois et a mis une pression très forte au début pour enclencher le processus. Peut-être qu'une fois le canal en place, les deux parties vont y réfléchir à 2 fois avant d'engager une rupture des négociations.
Gageons qu'entre-temps, Donald Trump a lu l'accord de 2015, parce que d'aucuns disaient en 2018 qu'il le quittait sans savoir ce qu'il y avait dedans. Alors c'était sans doute assez condescendant, mais lui n'a jamais démenti. Marc Semo ?
Oui. Est-ce que un des grands éléments nouveaux par rapport à 2015, c'est le fait que la République islamique est quand même aujourd'hui en position de faiblesse beaucoup plus forte qu'à l'époque ?
Est-ce qu'Ali Khamenei peut accepter de boire la coupe de poison, comme l'avait dit sur un autre sujet l'ayatollah Khamenei quand il avait dû accepter un cessez-le-feu avec l'Irak de Saddam Hussein en 1988 à Hassani Abidi ?
Vous savez, c'est une question de survie aussi pour le régime politique iranien. Et c'est pourquoi la dynamique de négociation, et c'est une très bonne option pour les deux parties. Les Iraniens, ils peuvent travailler pour un accord provisoire, même si l'administration américaine est pressée, elle veut ce qu'on appelle le good deal, un bon accord, mais les Iraniens veulent, et moi je pense qu'ils vont travailler sur cette option. Vous avez parlé de l'accord précédent, Witkoff a lâché cette information, c'est ça le seuil de 3,67 et Marco Rubio est revenu sur cette décision pour dire oui, nous acceptons un enrichissement à 3,367 mais à condition que l'uranium justement soit importé de l'étranger. Je pense que ça c'est une question vraiment importante, c'est le fond de la question. Est-ce qu'on peut garder les installations nucléaires, la capacité iranienne, l'arrivée un petit peu à ce seuil nucléaire et pour avoir un civil, pour avoir un programme civil? Là, Marc Simo a parlé de la transaction, oui, mais les Iraniens d'ailleurs, ils ont dit aux Américains, vous savez, nous avons l'intention de construire des centrales nucléaires et qui vont coûter des milliards, et les Américains sont les bienvenus pour construire ces centrales. Donc il y a une situation politique interne qui est intenable et qui ne supporterait pas davantage de pression économique, et aussi une question, on le sait, une question internationale où il y a une reconfiguration régionale qui a affaibli passablement l'Iran. Il a privé même de sa ceinture de sécurité, c'est-à-dire le Liban, le Hezbollah, ce qui se passe à Gaza ou ce qui se passe au Yémen. C'est un message direct par les Iraniens. Donc on a aujourd'hui une configuration iranienne qui est beaucoup plus disponible à la négociation, mais à condition que cette négociation ne soit pas humiliante pour le régime iranien et qui ne revient pas sur les acquis, sur les fondamentaux, à savoir les capacités nucléaires iraniennes.
Je saisis au vol cette phrase que vous avez dite à Hassani Abidi et qui, loin d'être anodine, les Américains seraient les bienvenus, en tout cas le régime iranien pourrait dire aux États-Unis, vous êtes les bienvenus pour construire les centrales nucléaires dont on a besoin et qu'on voudrait pour développer notre programme. Donc il y a de ça aussi que en termes dans les accords de demain, c'est-à-dire on est encore une fois dans cette idée de la transaction, des contrats. L'Iran pourrait aller jusqu'à accepter par ailleurs d'ouvrir son marché, comme on dit, des populations, 88 millions d'habitants en l'occurrence. Il y aura de ça sur la table demain ?
Alors, je pense qu'on est plutôt dans la guerre informationnelle, c'est-à-dire que c'est des stratégies de communication, ce qu'on appelle la diplomatie publique. Je pense pas que les réformes nécessaires pour accéder au dollar, pour rétablir les connexions bancaires entre l'Iran et le reste du monde, se négocient en ce moment à Muscat. Donc là, on dit toujours, il y a 2 différences principales, je pense, par rapport à la négociation précédente, puisque cette idée d'avoir de l'uranium enrichi iranien à l'étranger a déjà été évoquée en 2005, au début de la crise nucléaire, et ça s'appelait déjà à l'époque la proposition russe. Et cette fois-ci, de nouveau, la Russie a proposé ses services, puisque Donald Trump a demandé au président russe de l'aide sur cette question, et le président russe a accepté d'en apporter, et cette vieille proposition russe de 2005 a ressurgi. Donc pour répondre à la question aussi de Marc Semo, la question, c'est ce que l'Iran a refusé entre 2005 et 2015, peut-il l'accepter aujourd'hui, finalement ? Et l'autre question qui se pose, je pense, pour la République islamique, c'est la question de l'effondrement interne, tout simplement. Est-ce que les dirigeants iraniens aujourd'hui ont d'autres choix que de négocier? Et donc c'est pour ça que l'idée d'un accord temporaire pourrait satisfaire le dit suprême, qui pourrait dire finalement c'est juste une étape nécessaire pour la République islamique, mais la confrontation avec les États-Unis demeure. Je ne pense pas que de régler simplement la question nucléaire permettra de régler l'ensemble du différend entre l'Iran et les États-Unis, qui est très vaste, qui concerne la politique régionale, la reconnaissance d'Israël, le programme de missiles, le programme de drones et la question des droits humains. Et donc pour rétablir les relations commerciales avec l'Occident, il faudra un accord global. Et c'est pour ça qu'il y a ce débat aussi, est-ce que l'Iran peut obtenir plus que l'absence de guerre finalement? On dit qu'aujourd'hui, les diplomates iraniens ne négocient pas pour obtenir la levée des sanctions, mais pour obtenir la paix.
Pour obtenir la paix, l'Iran qui n'a lui-même plus de capacité de dissuasion, qui reposait essentiellement sur les missiles balistiques et son réseau de la résistance, comme le disait le théoricien ou l'architecte en tout cas de cet axe de la résistance, Qassem Soleimani, qui a été assassiné sur ordre des États-Unis pendant le premier mandat de Donald Trump. N'oublions pas ce passif entre l'Iran et les États-Unis, qui est évidemment toujours ce grand, je ne sais pas si c'est un non-dit entre eux, mais qui sera forcément présent dans les têtes demain. Marc Semo.
Oui, est-ce qu'une dictature comme celle de la République islamique, peut survivre à une vraie ouverture si, par exemple, les négociations avancent et que la société a les opportunités de s'ouvrir. On parlait justement d'investissements américains pour des centrales nucléaires, mais ça peut être aussi pour beaucoup d'autres choses. Est-ce que cela ne peut pas être aussi redoutable pour la dictature que la politique de répression? Parce que l'expérience montre que quand on commence à ouvrir les vannes, le flou emporte tout.
Peut-être que je vous réadresse cette question-là, Clément Terme, qui avait travaillé aussi sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté.
Oui, c'est une question qui est ancienne, parce que c'est ce débat, en fait, en République islamique, date de la présidence Rafsanjani, donc entre 1989 et 1997. À l'époque, déjà, la question d'attirer les entreprises américaines était posée, et les Américains avaient pris des sanctions et avaient empêché cette perspective. Et c'est pourquoi ce sont les entreprises européennes qui étaient très présentes jusqu'au milieu des années 2000, des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, premier partenaire commercial de l'Iran, avant de laisser la place à la Chine avec les sanctions précédentes et la précédente crise du nucléaire. Mais la question s'est posée ensuite de manière différente sous le président Rattani, avec l'ouverture culturelle, les contacts entre les ONG, la possibilité d'avoir de la diplomatie informelle également, qui a été évoquée à l'époque. Et là, on avait vu, par exemple, l'ancien otage américain, donc qui avait été retenu pendant 444 jours à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, qui est l'acte fondateur de la révolution islamique, essayer de rencontrer un ancien preneur d'otage, un membre du gouvernement Rattani. Et après cette rencontre, celui-ci avait été en prison en Iran, à son retour des États-Unis, après avoir rencontré l'ancien diplomate otage américain. Et donc là aussi, ça avait été un échec du rapprochement. Sous Obama, la même chose. Il y a eu une nouvelle tentative. L'accord nucléaire devait entraîner, à l'époque, il y avait ce rêve d'un accord qui couvre la Syrie. À l'époque, il y avait les problèmes syriens avec Bachar al-Assad. Il y avait les printemps arabes. Et une réconciliation régionale irano-américaine aussi devait être enclenchée. Et ça n'a pas été le cas avec 2018, de nouveau, le retrait de Trump de l'accord. Donc c'est une histoire d'opportunités manquées. On est sur, il faut comparer par rapport à Cuba. Donc il y a eu plusieurs aussi décennies d'absence de relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Et l'Iran, de la République islamique, n'a pas de relations diplomatiques depuis 46 ans. Et donc, si vous voulez, l'ouverture d'une ambassade, parce que c'est de ça qu'il s'agit, depuis toutes ces années, qui est en débat, poserait un problème fondamental pour la République islamique, à savoir la queue qui serait dans la rue pour obtenir un visa pour aller aux États-Unis de la part de la population iranienne. Donc ça serait un tel désaveu pour le dit suprême Ali Khamenei. C'est ce que j'explique dans le chapitre du livre dirigé par mon collègue Hassni Abidi, que je pense que de son vivant, l'ayatollah Ali Khamenei n'acceptera pas le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis, car ça serait un reniement de tout son leadership, de tout son investissement idéologique finalement dans la révolution islamique.
Et ça, est-ce qu'on peut imaginer que ça fasse débat Hassani Abidi au sein de la République islamique, même s'il est très difficile d'avoir accès au moindre débat, on a l'impression d'un bloc assez monolithique, et même quand on parle de modéré au sein du régime, on sait combien cette expression est fallacieuse, et les chercheurs ont déjà beaucoup expliqué combien modérés et radicaux au sein de la République islamique sont deux facettes d'une même médaille. Néanmoins, le nouveau contexte régional, le fait que l'Iran ait perdu ses alliés, que Bachar al-Assad soit parti, que le Hezbollah et le Hamas soient soient exsangues aujourd'hui, est-ce que d'aucuns au sein de la République islamique tiennent la ligne que vient de développer Clément Terme à propos de l'ayatollah, c'est-à-dire de dire on doit absolument garder une force de frappe et comme on n'a plus de missiles balistiques ou quasiment plus, on est obligé de passer par le nucléaire, et d'autres s'y opposeraient.
Le droit de l'inventaire est une nécessité. Je pense qu'à l'intérieur du régime iranien, il y a plusieurs tendances. Et parmi les tendances représentées par le président Bezisquian, c'est certainement de dire qu'aujourd'hui, l'Iran n'est plus en mesure de mener des guerres et d'ouvrir plusieurs fronts à la fois. Et qu'il y a une nécessité, il y a une priorité locale très importante et que c'est elle qui doit motiver et nous dicter les contours de cette politique étrangère et pas l'inverse. Ça, c'est un premier élément. Mais est-ce que ce débat est public? Est-ce que je regardais un peu la presse iranienne, le journal proche des réformateurs Achar, qui a été fermé quelques jours parce qu'il a parlé d'une réunion, en quelque sorte, pour appuyer cette approche de négociation directe. Je n'exclus pas est-ce que ce débat existe au sein du régime iranien. Mais permettez-moi de revenir, justement, cette question, elle est liée à la précédente. Et il faut rappeler que parmi les motivations d'Obama, et Obama là, ça lui arrive de lire des livres en sciences politiques sur les changements en Amérique centrale et dans d'autres pays, c'est que Obama a pris cette décision en disant que finalement les sanctions internationales, le boycott, la pression extérieure ne conduit pas forcément à des résultats positifs et que l'ouverture d'une société, la fin des sanctions, même progressives, pourrait conduire à une libéralisation certes graduelle, mais l'émergence d'une certaine classe moyenne qui n'est pas forcément le point central, le pilier du régime iranien, et qui, avec le temps, elle ne va pas se contenter d'un rôle politique, ça c'est bien sûr une thèse théorique, mais elle va demander aussi un rôle économique, sociétal et politique, et le changement viendra de l'intérieur. Cette thèse, elle est intéressante, elle est séduisante, mais elle a besoin de patience, elle a besoin d'un temps lent pour arriver justement à une ouverture de la société, et que c'est la société elle-même de l'intérieur qui va aussi imposer des réformes. Le changement de l'administration américaine, malheureusement, finalement, nous a empêché de voir la suite de cette thèse qui a été adoptée par Obama et par plusieurs démocrates autour du président américain. C'est pour encore une fois revenir, pour dire finalement, s'il n'y avait pas d'accord, c'est parce que si l'administration américaine, Trump est sorti de l'accord, on est dans une situation, c'est à cause de sa sortie d'accord. Et 3,67 niveau d'enrichissement de l'uranium était déjà présente comme une ligne rouge. Donc on est aujourd'hui en train de revenir finalement sur certains paramètres qui ont été négociés, il faut rappeler, Vienne, à Genève et à Lausanne. Ce n'est pas pour rien que le ministre des Affaires étrangères iranien s'est déplacé à Pékin. Il veut donner aussi une nouvelle vie à ces États qui, eux, ont critiqué la sortie de l'administration américaine de l'accord nucléaire.
C'est vrai que l'Iran a envoyé en début de semaine son ministre des Affaires étrangères en Chine, précisément pour des consultations sur le dossier nucléaire. Marc Sémo.
Oui, alors à ce sujet, quel rôle peut jouer spécifiquement la Russie, d'autant que Téhéran s'était beaucoup rapproché de Moscou, y compris d'ailleurs en l'aidant très concrètement dans la guerre d'Ukraine avec les drones Shahid et même des usines de drones qui ont été construites en Russie. Donc, quel rôle peut avoir la Russie? Et est-ce que c'est en même temps connecté, d'une certaine façon, aussi à ce qui est en train de se jouer en Ukraine autour d'un possible cessez-le-feu?
Clément Terme.
Oui, tout à fait, c'est connecté, puisque un accord de cessez-le-feu en Ukraine conduirait automatiquement à une désescalade entre la Russie et les États-Unis. Et on a déjà observé à l'époque du président Obama, auquel faisait référence Hassani Abidi, il y avait déjà le 8-7 à l'époque, c'est-à-dire la volonté d'Obama aussi de se rapprocher des autorités russes. Et donc ça, c'était un élément important dans le succès du précédent accord nucléaire. Donc effectivement, une Russie qui relaie les propositions américaines et qui fait pression sur l'état profond iranien pour accepter des compromis, c'est un paramètre important qui explique aussi la décision du guide suprême d'accepter le principe même de ces négociations. Donc oui, la Russie peut jouer un rôle complémentaire et depuis plusieurs décennies, on a observé que la question iranienne peut être un facilitateur finalement dans les relations russo-américaines puisque la question du nucléaire iranien est plus facile à régler entre la Russie et les États-Unis que la question de l'Ukraine, tout simplement. Donc il y a aussi cet élément-là qu'il faut prendre en compte. Mais du point de vue iranien, l'alignement exclusif sur la Russie et la Chine ne me permet pas d'améliorer significativement la situation économique du pays. Et ce qui a changé par rapport à la période d'Obama, c'est que les États européens sont très opposés à la République islamique aujourd'hui en raison du mouvement Femmes de Liberté, mais pas seulement, en raison des livraisons d'armes à la Russie également. Et donc la perception de la question iranienne a été bouleversée en Europe. Quand Trump est sorti de l'accord, les Européens essayaient de rester, de conserver cet accord. Aujourd'hui, les Européens agissent de manière complémentaire aux pressions exercées par l'administration Trump, avec la menace de rétablir les sanctions de l'ONU au mois de juin si les négociations n'aboutissent pas. Donc ils sont pas du tout en porte-à-faux cette fois-ci par rapport à l'administration Trump. Ils sont en pointe et ils souhaitent faire pression sur la République islamique parce que je pense que dans les chancelleries occidentales, il n'y a plus du tout cette croyance dans le modéré parce que le modéré iranien a déjà échoué à l'époque de Rattani, à l'époque de Rouhani et donc il y a déjà eu cette succession d'échecs, cette croyance dans une réforme possible de la République islamique. Et d'ailleurs, la jeunesse iranienne, la génération Z, et dans sa grande majorité, la population iranienne, ne croit pas du tout à une réforme possible dans le cadre politique actuel.
L'Union européenne, elle dit pour l'instant se réjouir de la reprise des discussions. Néanmoins, il n'y a aucun représentant de l'Union européenne qui doit aller à Mascate demain pour rejoindre les discussions. Exit le haut représentant pour les affaires étrangères de l'UE. Alors, c'est plus Josep Borrell depuis octobre dernier, mais celle qui lui a succédé, l'estonienne Kaja Kallas, n'est pas là non plus, pas plus que les représentants des pays de l'UE impliqués jusqu'à présent, France, Allemagne, Royaume-Uni. Pourquoi, Hassani Abidi, ces discussions qui sont censées être, même si on comprend bien à vous écouter l'un et l'autre que ça va bien au-delà, mais qui sont censés être sur le nucléaire iranien, exclut pour l'instant les États partis qui se sont beaucoup impliqués depuis 2015 et surtout après 2018 pour maintenir un dialogue avec l'Iran.
Et d'abord, les deux intéressés ne sont pas intéressés par un quelconque rôle de l'Europe. Les Iraniens ont toujours regardé du côté de Washington. Pour eux, l'objectif ultime reste une relation positive avec les États-Unis, mais pas l'Europe, puisqu'ils savent qu'il y avait une grande déception. Les Européens n'ont pas su ou n'ont pas voulu résister finalement à l'arrivée de Trump et à la sortie de cet accord. On a bien vu que les sociétés, les compagnies européennes ont même commencé à quitter les rangs par peur de sanctions américaines avant même le feu vert de leurs États européens. Ça, c'est une question importante. Et je trouve que c'est injuste par rapport aux Européens parce que l'administration Trump, souvenez-vous, elle a critiqué l'accord nucléaire en disant que cet accord, il n'est pas complet, il ne traite pas la question des missiles balistiques, il ne traite pas ce qu'on appelle la politique de nuisance, la politique étrangère iranienne dans la région. Si on ne sait pas grand-chose sur le déroulement des négociations à Mascate, à Rome et aussi demain à Mascate. Mais on sait très bien que les Iraniens ont fixé aussi une certaine limite, c'est-à-dire de rester que sur le programme nucléaire et ne pas aborder la question de la politique étrangère iranienne, même si aujourd'hui l'Iran est dans une position moins confortable qu'auparavant. Deuxième élément, je pense qu'il est important aussi de souligner, c'est que les Iraniens, ils ont un soutien important, c'est que les pays du Golfe ne veulent pas d'une une déflagration, ils ne veulent pas de guerre, ils ne veulent pas de cette dynamique conflictuelle, parce que le pays le plus important, l'Arabie Saoudite, et qui va recevoir le président américain dans quelques semaines, évidemment, il a bâti toute sa stratégie sur une certaine sécurisation de programme Vision 2030, la Coupe du Monde, de l'accession de Mohamed Ben Salman au trône, et donc la région, s'ajoute à cela les Émirats Arabes Unis et le Qatar, ne veulent pas justement revivre une situation conflictuelle dans la région qui serait dommageable pour leur sécurité, pour leur économie, sachant que s'il y a une attaque ou s'il y a un renouveau de cette dynamique conflictuelle de la part des États-Unis ou de, bien sûr, de la part d'Israël soutenu par les États-Unis, évidemment, ce sera aussi une donne qui est très dangereuse et déstabilisatrice pour la région.
Donc c'est cette forme de pression régionale, Clément Terme, qui aujourd'hui semble pousser Donald Trump à décliner les demandes faites par Israël de frapper des sites nucléaires iraniens. C'est le New York Times qui a expliqué ça il y a quelques jours, disant que Benjamin Netanyahu avait demandé aux États-Unis un appui militaire pour frapper des sites nucléaires iraniens et que Donald Trump aurait refusé après en avoir discuté avec son entourage. Marc Semo disait tout à l'heure l'inquiétude que Benjamin Netanyahu a de voir ce qui va ressortir de cette réunion demain, jusqu'où peut cette alliance qui existe entre Israël et Donald Trump peut peser dans ce que les États-Unis vont demander à l'Iran.
Alors je pense oui que tout à fait, les États-Unis s'appuient sur leurs partenaires régionaux. La prochaine visite évoquée par Azmi du président Trump, il se rendra donc en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, selon son programme. Et effectivement, il utilise plutôt la pression militaire israélienne comme un moyen d'augmenter sa marge de négociation pour faire pression sur le guide suprême Ali Khamenei, qui lui a peur d'une guerre, pour le pousser à la négociation. Donc ça a fonctionné dans un premier temps, et je pense qu'il y a un rôle complémentaire pour l'instant entre les États-Unis et Israël. Mais je pense que la voie privilégiée par les États-Unis, comme lors du premier mandat, puisque Donald Trump avait déjà repoussé les propositions de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, déjà de frapper l'Iran, il s'agit de, par la pression maximale, d'obtenir une capitulation de l'Iran et, comme vous l'avez indiqué, de faire boire le poison à l'ayatollah Khamenei. Donc c'est, je pense, la stratégie principale, au-delà des effets d'annonce et de la rhétorique guerrière qui parfois est utilisée, pour l'instant, en tout cas, il s'agit plus d'une stratégie de négociation que d'une décision américaine de soutenir effectivement, comme l'a indiqué le New York Times, de possibles frappes israéliennes. Ce n'est pas la voie privilégiée par les États-Unis.
Marc Semo, vraiment très rapidement pour conclure.
Est-ce qu'il y a le risque d'un accord bradé? Que ça finisse comme avec la Corée du Nord, où finalement il n'y a rien et voilà.
Vraiment, en deux mots, Asniabidi.
Oui, un accord intermédiaire. Moi, je plaide en faveur d'ailleurs de cet accord, parce que impossible dans ce délai de deux mois, au moins pour garder, vous savez, la dynamique de négociation, au moins sa valeur ajoutée, c'est éloigner un peu le spectre de la guerre. Pas brader, mais disons provisoire et graduel, pourquoi pas. Je pense que c'est à portée de main.
Merci beaucoup à tous les deux et tous les trois d'avoir été avec nous. Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Je rappelle l'ouvrage que vous avez dirigé, Le Moyen-Orient selon Donald Trump, paru en mars aux éditions Éric Bonnier, où vous signez, Clément Terme, un article. Je rappelle que vous êtes chargé d'enseignement à l'Université Paul-Valéry de Montpellier et que vous allez faire paraître les idées reçues sur l'Iran au Cavalier Bleu cette année. Merci beaucoup, ainsi qu'à vous, Marc Semo, notre partenaire du Monde. Vous retrouverez Mélanie Chalandon vendredi prochain. شرح مختصر از تو گویم ای همه هست و بود من نقش دل ز خاک تو تار و پود من ایران سرزمین من عشقت هم نشین من خون و ریشه ام ز تو دین من از تو جان گرفته ام مهربان
استخوان من، لحظه نشد جدا یادت توز من، ای سرشت عشق تو در روح و تن. ایران سرزمین من، عشقت هم نشین من، خون و ریشم ز تو.
La chanson de Daria Dadvar qui parle de son pays d'origine, l'Iran. Daria Dadvar est née à Téhéran, elle vit aujourd'hui à Paris. Pour conclure cette émission Culture Monde, présentée d'habitude par Mélanie Chalandon, que vous retrouverez vendredi prochain. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. La semaine prochaine, on consacrera notre série en 4 épisodes au Canada à l'occasion des législatives anticipées du 28 avril, lundi prochain. Donc, dans un instant, les midis de culture.